Bienvenue à ce discours sur le désir. Avec encore une fois, c'est quelque chose que je dis souvent, mais vraiment avec l'intention en fait de nous embarquer tous ensemble dans un chantier d'exploration sur ce thème du désir, qui est vraiment un thème essentiel, dans le sens où on pourrait se demander si tous nos mouvements ne sont pas issus au départ d'un désir, tous, absolument tous. Est-ce que la racine de chaque mouvement, peut-être la racine de chaque pensée, de chaque intention, est un désir? Et donc c'est bien sûr un chantier immense dont on n'arrivera pas à faire sens, ni en une heure de discours, ni en une journée de méditation, ni peut-être en une vie, mais quand même dans lequel il est nécessaire de plonger corps et âme, parce que c'est essentiel dans le sens où, comme je le disais, ça c'est la motivation de chaque moment de notre vie en fait. Donc avec l'attention dans ce discours de susciter des questions et de la chance pour moi d'amener mes réflexions. Un thème essentiel aussi parce que non seulement le désir suscite nos actes, mais aussi parce que des actes suscités par le désir, il y en a une grande partie qui sont problématiques. Et donc, et c'est là que dans le chemin spirituel de libération, d'ouverture et d'amour, on est obligé de regarder et de plonger dans ce thème du désir. On a vu à la retraite précédente comment, en survolant, comment le désir peut créer tellement de souffrances, tellement de souffrances, comment le désir est la racine d'une grande partie ou de la totalité peut-être des souffrances. C'est une question. Toutes ces choses déjà qu'on s'inflige à nous-mêmes parce qu'on n'a pas la maîtrise et le détachement par rapport à nos désirs. Et toutes ces trahisons que l'on s'impose, peut-être à chaque fois qu'on n'écoute pas en fait nos besoins profonds et que on va par exemple continuer à manger alors qu'on aurait besoin de s'arrêter, alors que le corps n'en peut plus, mais le désir est là et on peut pas s'arrêter. Mais alors c'est pas une fois. Pour certains d'entre nous, c'est une manière de vivre où le désir est tellement débridé en fait que on se suralimente ou on mange des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Le fait de se suralimenter va aussi avoir un impact sur l'écologie, l'économie, la justice sociale. Juste ça, juste à regarder là, on voit déjà la quantité de souffrance et les jugements que l'on s'impose à soi-même de ne pas se respecter. Tous les désirs autour de la relation, de vouloir être vu comme ceci, de vouloir être aimé comme cela, de manipuler notre environnement de manière à avoir l'appréciation d'autrui. Tous les désirs de sexualité et les pressions qu'il peut y avoir dans le couple et les attitudes qu'on peut avoir pour manipuler et arriver à nos fins. C'est infini, je ne vais pas en faire la liste. Cela pour dire que c'est vraiment dans cette recherche en fait d'ouverture, dans cette recherche d'une vie saine et dans cette recherche de libération, le désir est un thème absolument central qu'on est obligé de regarder en face et de questionner. Ce matin, quand j'allumais le feu, il a eu un peu du mal à partir et moi j'avais le temps. J'avais bien le temps, je savais qu'il ferait chaud quand vous arriveriez. Et j'étais dans un espace, dans un bel espace. Et le fait que le feu ait un peu du mal à partir, en fait, je me sentais en relation, en fait, avec le feu. Et c'est quelque chose que je connais bien parce que dans les retraites que je faisais, quand j'habitais en Inde, c'était le feu qui me chauffait, c'était aussi lui sur lequel je cuisinais, qui me donnait la lumière parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Donc j'ai développé dans ces, je passais beaucoup de mois avec le feu en fait et j'ai développé toute une relation que je garde encore parce que chez moi aussi je me chauffe au bois Et là, j'étais dans cette belle relation aussi parce que c'était la matinée d'une retraite, j'étais dans un certain espace, donc je me sentais vraiment en lien avec ce feu, je sentais une relation, une discussion. Du coup, il y avait quelque chose de très nourrissant, en fait, dans cet acte d'allumer le feu. Il y avait aussi je me sentais en lien avec quelque chose d'éternel, en lien avec quelque chose de profond. Je me sentais plein de gratitude d'avoir ce bois, d'avoir ce qu'il faut, en fait, pour nous chauffer tous. J'ai du mal à le décrire, mais je me sentais vraiment en relation avec le vivant, en allumant le feu. Et souvent, ça m'arrive chez moi aussi. Le matin, c'est un beau moment quand je ravive le feu. Il reste quelques braises. Je remets les petites brindilles. Et puis, je remets un petit peu, bon, et puis, j'ouvre toutes les arrivées d'air. Et puis, je m'assois et j'attends. J'attends et je regarde, je vois que ça fume, je vois. Et je l'ai regardé des centaines d'heures, le feu, quand je faisais mes retraites. Et je vois comment l'air peut passer, s'il y a assez d'air. Il y a quelque chose d'hypnotique. Et je remarquais ce matin, parce que c'était dans le thème, en fait, de ce dont je voulais vous parler, je remarquais comment c'était nourrissant, en fait. Et je me disais que parfois, par contraste, je remarquais qu'il y a des fois où le feu, c'est juste un acte utile de l'allumer. Et je ne vois pas au-delà. Si je suis dans un certain endroit de moi-même, si je suis dans un endroit peut-être où j'ai beaucoup de choses à faire et où je suis, ou si je suis tracassé par quelque chose, ou si j'ai plein de choses à penser, je vais allumer le feu et c'est juste un acte utile. Il n'y a aucune symbolique derrière, il n'y a aucune relation derrière. Et du coup, c'est pas du tout nourrissant. Et si là, le feu a du mal à prendre, alors il y a même une irritation qui vient. Et c'est pas du tout le même espace, en fait. C'est pas du tout, il se produit pas du tout la même expérience parce que je relationne avec le feu depuis un certain endroit ou d'un autre. Et je trouve ça très intéressant parce que ça a trait au désir. Je pense en fait que si je relationne trop au feu, aux gens et à tout ce qui m'environne depuis un certain endroit, un endroit que je vais essayer de le définir un peu plus, mais de l'ego, de l'ego en sens, cette partie de moi-même, cette identité construite et fonctionnelle. Une identité fonctionnelle. Pour moi, l'ego est une identité fonctionnelle qu'on a construit dans le temps et dont on a besoin pour pouvoir fonctionner en relation avec le monde. Et si je relationne depuis l'ego, depuis cette identité fonctionnelle, depuis cette identité construite, alors tout est vu d'une façon utilitaire. Chaque chose est utile, pas utile, nécessaire, pas nécessaire, à faire, pas à faire, mais il n'y a aucune symbolique. Et il n'y a aucun contact, aucune relation profonde avec les choses. Toute chose va être utilisée, ou toute personne va être utilisée, pour arriver aux objectifs de cette identité construite, de cet ego, ce besoin d'être aimé, besoin de se sentir en sécurité. Choquant de le dire comme ça, que toute personne va être utilisée. C'est choquant. Mais si on veut être honnête, en fait, il y a des espaces de nous-mêmes où on va voir comment cette personne peut m'être utile. Et je pense que c'est pas forcément malsain. Ce qui est malsain, c'est quand on ne fait que ça. C'est malsain et c'est pas du tout nourrissant. Parce que s'il n'y a pas de relation, en fait. On relationne avec le monde, on relationne avec les autres, on relationne avec toute chose comme une projection de soi-même. Tout est pour moi. Tout est à mon service. Tout est regardé comme pouvant m'être utile ou non. Je ne vis que sur ce plan-là, si je ne vis qu'au niveau de mon identité construite, si je me considère comme Denis né ici et qui s'est développé de telle manière dans le temps. Si je ne peux pas envisager quelque chose de plus profond en moi que tout ce qui s'est construit, que toutes ces idées que j'ai à propos de moi-même, que toute cette identité superficielle, alors je vais tout le temps relationner depuis cette identité superficielle. Et je pense que là, quand on fonctionne comme ça, on manque de nourriture. On n'est pas profondément nourri parce qu'il n'y a pas de relation vraiment. Ça manque de relation. Il va y avoir nos besoins et comment aller les chercher et comment les assouvir, mais il va pas y avoir la relation. Comme la relation que j'ai eue avec le feu ce matin, et qui sinon aurait juste été un acte utile d'allumer le feu. Dans cet acte utile, il n'y aurait pas eu une nourriture. Et à force de ne pas être nourri, le désir grandit, parce qu'il y a du manque. Parce que, en fait, plus on se sent en manque, plus le désir est fort. On le voit, ce lien. Moins on éprouve le manque, moins on a de désir, moins on a de besoin, plus on a la satisfaction. La question du désir est la question de la satisfaction. Dans la mesure où on atteint une sensation de satisfaction, dans la sensation de satisfaction, il n'y a plus le désir. On est satisfait. Donc toute la question est comment atteindre la satisfaction? Quels sont les moyens que nous utilisons pour nous sentir satisfaits? Et si on vit au niveau de notre idée, une identité superficielle uniquement, alors les moyens qu'on va utiliser pour être satisfait sont des moyens qui vont être très souvent très destructeurs. Bon, qui n'auront aucun respect pour la relation, aucun respect pour tout ce qui n'est pas moi, à moi. On voit par exemple, c'est quelque chose que je trouve frappant pour le moment avec ces élections aux États-Unis avec Trump, Musk et leurs proches. Comment les États-Unis dans ce mouvement en fait sont passés plus vers cette relation utilitaire, vers cette relation égocentrique et du coup sont en train de couper les ponts et même une tradition qui s'était établie juste après la guerre, la tradition de l'ONU, où il y avait vraiment à ce moment-là une envie de prendre soin de la paix tous ensemble et de d'avoir une relation entre pays, une relation de respect, de protection, de discussion et on va faire ce qu'il faut pour maintenir la paix ensemble. Et là, c'est pas le même endroit que là où les États-Unis se présentent maintenant. Là où les États-Unis se présentent maintenant, c'est juste une relation d'utilité. On va rester en lien avec les pays qui nous sont utiles. S'ils nous sont pas utiles, on n'a aucun intérêt pour eux. La relation humaine de pays à pays régresse dans ce mouvement qu'on constate aux États-Unis. Alors on sait quelque part que si on veut se respecter soi-même, si on veut se sentir profondément sur un chemin spirituel, si on veut respecter l'écologie, la justice sociale, les gens qui nous entourent, les animaux, c'est tout le même chemin en fait. C'est tout le même chemin. Ça c'est beau. C'est un chemin de simplification. C'est un chemin d'être capable d'être nourri avec moi, d'être capable de se sentir plus complet avec les la beauté des choses de base, comme je disais, le feu, mais ça peut être juste de boire de l'eau. Ça peut être très satisfaisant de boire de l'eau. Ça peut être vraiment très satisfaisant de boire de l'eau. Si on se rend compte de comment l'eau est précieuse, si on est dans un espace de nous-mêmes au moment où on boit l'eau, où on est dans un espace posé, justement, si on n'est plus dans cette suractivité, dans cette surnécessité, à ce moment-là, boire de l'eau peut être un moment où c'est agréable en fait. Et on peut se sentir même chanceux et avoir de la gratitude. On peut vivre tout ça en buvant un verre d'eau. Ou ça peut vite être le verre d'eau attrapé parce qu'on sait qu'il faut boire ou parce qu'on a soif, entre deux choses, et presque parfois s'étrangler ou avoir bu trop vite. Je sais pas si ça vous arrive, ça m'arrive moi parfois. Et puis je vois que j'ai bu un peu trop vite et elle passe un petit peu difficilement même l'eau. Et puis et repasser tout de suite à autre chose. Et là on a raté la possibilité en fait d'être nourri. Et si on a trop de possibilités d'être nourri par les choses de base, alors on n'a pas la satisfaction. Et si on n'a pas la satisfaction, du coup, on a plus de désir. Donc on sait que notre chemin passe par la capacité de se satisfaire de la beauté des choses nécessaires, de la beauté des choses de base. De la beauté d'une rencontre, de la beauté qu'on peut avoir dans la relation, de la beauté de la nature quand on la voit, si on sort et qu'il y a des arbres, on peut vivre quelque chose de beau à regarder les arbres. Ou on peut aussi ne pas les voir. Ça dépend à quel endroit de nous-mêmes on est. Et donc la pratique de la méditation aussi bien que de la spiritualité en général, c'est d'apprendre à revenir à cet endroit qui est capable d'être en lien avec la beauté, avec le sens, avec la gratitude. C'est revenir encore et encore à cet endroit, et c'est un endroit de nous-mêmes d'où aussi on va sentir du lien, je disais avec le feu, mais entre nous. On le sait, ça. On sait que souvent, on a nos désirs nous amènent à avoir des attitudes qui créent de la souffrance pour nous-mêmes et pour autrui. On le sait tous. On le voit. On essaye de changer. Et souvent, on n'y arrive pas. On y arrive un petit peu, mais parfois pas par rapport à l'immensité des choses ou de qui nous inspirent, par rapport à la profondeur de nos aspirations, on se sent démuni, impuissant. Et c'est donc la question, je pense qu'il faut se poser, qu'est-ce qui peut nous donner de l'élan, qu'est-ce qui peut nous donner de l'enthousiasme, qu'est-ce qui peut nous donner l'énergie, qu'est-ce qui peut nous donner la compréhension de quels sont les chemins à prendre, de quelles sont les attitudes pour mieux correspondre, pour mieux répondre à nos aspirations. Nos aspirations profondes viennent du même endroit que cette relation avec le feu. Quand on est dans cet endroit de nous-mêmes, peut-être quand on fait une marche en forêt ou quand on quitte une méditation, dans des moments qui sont simples et beaux, à ce moment-là, nos désirs vont être nos aspirations. Nos aspirations, c'est ce qui nous appelle en profondeur. C'est aussi un désir. C'est des désirs de profondeur. C'est des désirs où on sent que ceux-là sont ceux qu'on veut vraiment, sont ceux qui ont du sens, sont ceux qui sont constructifs dans la relation, dans l'amour, et pas destructeurs. On les connaît ceux-là aussi. Ils nous appellent, mais ils sont plus difficiles d'accès. Par défaut, on va vers ce qui est facile. On a du mal à avoir cette discipline et cette énergie et cette compréhension qui peut nous guider vers être au plus proche de nos aspirations. Pourtant, on a l'impression de savoir, on a l'impression de bien comprendre que si on suit tel chemin, si on continue à assouvir tel désir quotidiennement, on va relationnellement vers les problèmes avec nos amis ou dans notre couple, on va vers des problèmes de santé, parfois graves, on continue à contribuer à un mal-être mondial en continuant à assouvir tel et tel désir de telle et telle manière. Mais on se sent impuissant. Savoir ne suffit pas. Savoir ne suffit pas. J'écoutais ce neuroscientifique Albert Mukhever, je le citais dans le dernier discours. Il parlait d'un modèle, en fait. On pensait, je crois que c'est dans les années 80, en fait, il y avait un modèle de psychologie sociale qui disait que les gens ne faisaient pas ce qu'il fallait parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations, qu'il fallait donner les bonnes informations aux gens pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et ça s'appelait le modèle du déficit d'information. On ne prend pas les bonnes décisions parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. On est en déficit d'informations. Donc c'était le modèle du déficit d'informations. Et c'est là qu'on a commencé à informer beaucoup sur le fait que la cigarette amène le cancer et toutes les campagnes qu'il y a eu autour de la cigarette, en disant aux gens, ben voilà les problèmes, pour que, en imaginant que les gens, en le sachant, vont prendre les bonnes décisions. Et on a pu constater que non. Que non, on a beau dire la cigarette tue, la cigarette amène le cancer et tout ça, ce n'est pas un modèle suffisant, juste savoir ne suffit pas pour changer. Et donc c'est un modèle en fait qui est obsolète. Maintenant, en psychologie sociale, on ne pense plus que juste en donnant les bonnes informations à quelqu'un, juste parce qu'il sait, il va choisir l'attitude la plus avisée. Faut d'autres éléments. Quels sont ces autres éléments? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qui nous manque, en fait, pour coller au mieux à nos aspirations profondes? Je pense que c'est ça, en fait, vraiment la question à se poser. Dans le bouddhisme, Il y a le noble sentier octuple. J'en ai parlé lors les retraites d'un jour. Je pense que c'était il y a 3 ans. C'était beaucoup autour du noble sentier octuple. Et donc là, dans ce, c'est en fait le chemin proposé par le Bouddha pour la libération. C'est le chemin pour se libérer. Donc dans le bouddhisme, c'est se libérer de la souffrance. La souffrance, qui est une autre manière de dire la satisfaction. Donc le chemin vers une satisfaction. Le noble sentier octuple est le chemin vers une satisfaction de plus en plus profonde, voire ultime. Et donc dans le noble sentier octuple, on a la compréhension juste, j'en ai parlé, qui est une manière de voir les choses qui ne créent pas de souffrance. Hein, c'est très très, on y reviendra plus tard. Mais on a aussi la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Et ces 3 points sur les 8 sont des points d'éthique. C'est l'éthique. La parole juste. Une parole qui ne soit pas manipulative, qui soit dite au bon moment, où on connaît nos intentions quand on parle. Il y a tous des discours sur la parole juste. Une parole qui ne va pas créer la dissension entre les gens, qui ne va pas créer de souffrance, qui va être dite avec une intention positive envers la personne à qui on parle. Ben, c'est l'éthique. Pareil pour l'action juste, une action qui ne va pas créer de souffrance, qu'on regarde et qu'on sait que cette action qu'on pose ne va pas créer de souffrance. C'est un but, c'est impossible de coller à ce but, mais c'est le but à suivre. Pour pouvoir avoir un tel degré de sensibilité, il y a du coup la nécessité de cultiver certaines vertus. Je regardais un petit peu, je faisais un peu des recherches hier sur les vertus et je voyais, suivant les traditions et tout ça, il y a les 4 vertus, les 5 vertus, les 8 vertus, les 12 vertus, enfin, il y a plein de modèles en fait. Là, je relevais juste ce qu'en disait Socrate, relayé par Platon. Donc déjà, Socrate définissait les vertus comme un moyen de vivre en accord avec notre morale. Les vertus sont le moyen, c'est ce qui nous donne la capacité de vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour nous, en conformité avec ce que l'on pense. On imagine bien que si on arrive à vivre en conformité avec ce que l'on pense, on éprouve une grande satisfaction. Si on éprouve une grande satisfaction, on a moins besoin d'avoir tout le temps des désirs pour essayer de se sentir satisfait. Alors les vertus dans le modèle de Socrate sont le courage, la modération ou la tempérance, la justice, la piété. J'y reviendrai, la piété, mais peut-être déjà on peut l'appeler plutôt le sacré ou la reconnaissance du mystère. Un peu cette relation avec le feu dont je parlais, un peu cette dimension. Le mot piété peut être choquant dans notre culture actuelle, mais on peut le voir comme ça, comme cette relation au mystère, et le fait de voir qu'il y a plus que juste quelque chose d'utile dans une relation. Et la sagesse. Et dans ce modèle, à Socrate, la sagesse est au centre, et puis les 4 autres vertus sont comme les 4 directions, les 4 points cardinaux. Oui, donc le courage, la modération, la justice, la piété et la sagesse. Alors directement, je me suis demandé comment on développe en fait les vertus. Hein, comment est-ce qu'on fait pour acquérir les vertus? De nouveau, on peut se sentir bien impuissant face à ça. Hein, on les a déjà bien quelque part intuitivement comprises, ces vertus, ces nécessités en fait, ces beautés de l'âme qu'on pourrait avoir, mais qu'on a, mais qu'on dont on aurait besoin de bien plus, en fait. On a tous déjà du courage, bien sûr, mais quand on l'a, on ne le voit plus. C'est ce qui nous manque qu'on ne voit pas. On a de la modération ou un sens de la justice. Mais c'est infini, en fait, les vertus. C'est pas quelque chose où on peut se dire, ça y est, j'y suis. C'est un projet sans fin de marcher vers acquérir les vertus, incarner les vertus. Donc je réfléchissais un petit peu à dans quelle mesure est-ce que la pratique de la méditation nous aide à incarner mieux ces vertus, à acquérir un peu plus ces vertus, à devenir un peu plus vertueux dans ce modèle. Et par exemple, je pensais au courage, je me dis, ben, ça commence tout de base. Le fait de la pratique de la méditation, déjà, c'est pas simple, en fait. Il faut déjà du courage, ne serait-ce que parfois pour se lever, plutôt, et méditer. Ça nous engage, en fait, à faire des efforts, à avoir le courage de faire l'effort de pratiquer la méditation. Mais aussi, la pratique de la méditation, elle nous amène au courage de renoncer à faire certaines choses. Parce que quand on pratique la méditation, pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Et parfois, on peut pratiquer beaucoup la méditation, et du coup, il y a plein de choses qu'on ne fait pas, qu'on laisse complètement de côté. On laisse même, à un autre niveau, on a le courage d'arrêter de construire notre identité. Donc non seulement on arrête de travailler à organiser notre vie, on laisse du vide et de l'espace, il faut un certain courage pour ça. Parce que c'est par défaut, on va être tout le temps en train d'essayer de faire mieux, d'organiser mieux, et on a toujours tellement de choses à faire. Tout le monde est débordé. On a toujours tellement de choses à faire. Et à un moment, il faut du courage pour dire stop et se poser dans le silence à rien faire. Et on fait ça même en attitude intérieure. C'est-à-dire que on n'est même pas là pour développer notre identité. C'est même pas, dans la manière dont je le comprends, ce n'est pas du développement personnel. On n'est pas en train d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Juste, on arrête tout ce qui, d'habitude, est une activité. Tout ce que d'habitude on essaye de développer. On ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. On ne cherche pas à être spécial. Il faut du courage pour tout ça. C'est aller au contresens de l'ego, parce que l'ego, surtout quand il a toute la place et quand on lui donne toute notre attention et qu'il gonfle, son besoin est d'être de plus en plus, il demande de plus en plus notre attention, pour être maintenu, construit et pour se sentir spécial, de manière à attirer un maximum de reconnaissance de l'extérieur. Et là, il faut du courage de temps en temps pour dire ben stop. Là, je stoppe. Donc, on peut savoir, et je trouve ça intéressant aussi de comprendre que la pratique de la méditation développe cette affinité avec le silence, avec la simplicité, permet de faire l'expérience des choses simples avec gratitude, mais aussi ça développe le courage. La tempérance. Alors la méditation, vraiment, c'est une pratique de tempérance. Hein, quand on s'assoit, qu'il y a des suggestions qui viennent, automatiquement. En fait, c'est une pratique de non-réactivité, la pratique de la méditation. On pourrait la voir comme ça. On apprend à ne pas être réactif. Quand on est réactif, ça veut dire que dès qu'il y a une suggestion extérieure ou intérieure, c'est-à-dire une pensée-émotion, il va y avoir un désir que la suggestion extérieure, on va avoir un désir que ça continue, si on aime bien, si c'est quelque chose de plaisant, ou on va avoir le désir que ça s'arrête, si on n'aime pas. Et la tempérance, c'est la capacité, en fait, de ne pas tout le temps être un peu plus de ça, un peu moins de ça. Ah, je voudrais ça. Ça, il faut que ça s'arrête. Et c'est fin, ce dont je parle. Hein. C'est pas des grandes phrases qui se disent dans notre tête. Donc, l'oiseau, je voudrais bien qu'il continue. Ah, les voitures qui passent tout le temps, si ça pouvait se calmer un petit peu. Ah, cette douleur dans le dos, je peux pas méditer. Ça ne se dit pas comme ça dans notre tête, mais c'est vécu profondément comme des légères tensions ou des mouvements de tension et d'ouverture. Entre ce qui nous convient comme condition et ce qu'on ne veut plus comme condition, ce qu'on ne veut pas dans le moment. On veut que cette douleur disparaisse, réactivité. on veut que ce moment agréable continue, réactivité. J'en parlais déjà dans le premier discours. Et la tempérance, c'est la capacité, en fait, de ne pas être tout le temps en mouvement dès que quelque chose nous convient ou ne nous convient pas. D'être non réactif. Et ça, vraiment, c'est quelque chose c'est quelque chose qui va être très fort développé dans la pratique de la méditation. C'est la tempérance. C'est la capacité, en fait, de... J'ai une situation qui me vient, je ne sais pas si elle illustre exactement, on va voir. Je me rappelle un jour où on était sur la terrasse chez moi, il y avait des amis, et à un moment, c'était un couple, et alors eux, par contre, la tempérance, c'est pas du tout ça. Ils sont tout le temps en train de s'engueuler. Ils s'aiment, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ça tient. Moi, dès le début, quand je les voyais, je croyais que ça tiendrait jamais. Parce que vraiment, ils s'engueulent sérieux. Un fonctionnement. Bref, là, on est sur la terrasse et à un moment, donc l'homme, il marche sur la patte du chien et le chien crie. Alors là, ça fait comme ça. Il marche sur la patte du chien, le chien aboie, le petit cri de douleur. Lui crie sur le chien, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Et sa femme lui crie dessus en disant, mais qu'est-ce que tu marches sur le chien, fais attention quand même. Ça, c'est la réactivité, ça. Ça, c'est la réactivité à l'extrême. Il n'y a pas d'espace entre le moment, la perception et la réaction. Et quand on pratique la méditation, on a beaucoup plus d'espace. C'est-à-dire que on va marcher sur la patte du chien, on va le voir. Et là, il va y avoir un espace, en fait. Et puis, il va y avoir notre réaction. Et du coup, on va avoir le choix de notre réaction. Elle n'est pas une explosion de « qu'est-ce que tu fous là ?» Peut-être ça va être la première réaction qui va venir en nous, c'est « qu'est-ce qu'il fait là ?» Mais c'est pas ça qui va exploser, parce qu'on a le choix, on a de l'espace. C'est pas le premier truc qui passe qui nous attrape, et du coup c'est ça qu'on dit ou c'est ça qu'on fait. On a la tempérance, on a le recul. Ça c'est... c'est peut-être pour ça que c'est dans les vertus. Parce qu'effectivement, ça nous permet en fait d'être en relation avec toute chose. Ça permet en fait à laisser l'espace nécessaire pour que notre sagesse puisse s'incarner. Sinon, on est réactif. Quand on est réactif, peut-être qu'on sait très bien comment il serait sain d'être dans cette situation. Mais si on n'a pas la tempérance, eh ben c'est par réactivité, on va reproduire toujours la même chose. Il paraît qu'on reproduit en fait toujours les mêmes réponses quand on est réactif que ce qu'on a appris dans nos 7 premières années. J'en sais rien, mais bon. En tout cas, on n'a pas le choix de notre réponse si on n'a pas un petit peu de distance, si on n'a pas cette tempérance. Et du coup, notre sagesse, la sagesse qui s'acquiert avec le temps, elle, ne peut pas s'incarner parce que on est réactif tout le temps. Et juste peut-être une demi-seconde après, on sait que c'est pas comme ça qu'on aurait voulu faire ou dire. Mais ça a été trop vite pour nous. Parce qu'on n'a pas cette tempérance, parce qu'il n'y a pas cet espace. Alors la justice, mais la justice en fait, en méditation, la justice vient de la sensation d'une humanité commune. C'est quand on est à cet endroit de nous-mêmes où on se sent pareil que l'autre. Quand on est à cet endroit de nous-mêmes, c'est de là qu'on relationne avec l'autre et pas dans cet autre espace que j'appelais l'ego. Et quand en méditation, on quitte la construction, l'activation de la pensée, puisque je le décris chaque fois ce processus, mais parce que je pense que c'est un des plus importants à voir. Vraiment, je pense que ceux qui viennent souvent, ou qui écoutent souvent les discours, ou qui viennent souvent à mes retraites, ne peuvent que voir ce processus, parce que j'en parle tout le temps. Quel est le processus? C'est que quand on se pose, qu'on se concentre sur quelque chose, on ne donne plus notre attention à la aux pensées. Du coup, il y a moins de construction de l'identité. S'il y a moins de construction de l'identité, on fait l'expérience de soi différemment. On ne fait plus l'expérience de soi à travers ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qu'on a réussi, ce qu'on a raté, nos ambitions, toute cette identité construite. On ne fait même plus l'expérience de soi comme un homme ou une femme. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine activité cérébrale pour se rappeler qu'on a un homme ou une femme quand on est assis les yeux fermés et qu'il y a juste la respiration qui va et qui vient. Et beaucoup d'espace. Et quand on fait l'expérience de soi comme ça, alors on n'est pas différent des autres. Cette attention présente en ce moment-là, c'est la même que celle qui est présente dans les autres et même dans les animaux. On se sent plus d'une vie commune, au-delà même d'une humanité commune. Humanité commune serait pour tous les hommes, mais d'une vie commune dans le sens où cette vie qui pulse en nous et qu'on sent, eh bien c'est la même qui pulse en toute chose. Et quand on sent ça, quand on est là, à ce moment-là, automatiquement, la notion de justice, notion de justice n'est pas dans notre esprit, mais quand on agit de là, on agit en humanité commune. On n'est plus à cet endroit où on va vouloir utiliser les autres à notre profit pour avoir un compliment ou pour aller chercher une satisfaction quelconque. Notre désir, depuis cet endroit-là, si un désir émerge, le désir sera un désir de justice et d'équité. Tout naturellement, c'est normal. C'est ce qu'on désire quand on est à cet endroit-là de nous-mêmes. Toute personne qui va à cet endroit-là de nous-mêmes va avoir ce genre de désir. Et plus des désirs, soit d'une tasse de café ou d'une clope, soit d'être vu comme le roi du monde, soit d'avoir de la puissance, soit de recevoir des compliments, soit... De cet endroit-là, en fait, il y a un type de satisfaction qui fait que certains autres désirs ne vont plus émerger. Et les désirs qui vont être émergés vont être plus des désirs qui sont en accord avec ces vertus, notamment le désir de justice, parce qu'on va sentir, en fait, notre humanité commune, ce qui nous lie, cet endroit de nous-mêmes où on n'est pas différent. Et de là, bien sûr, vient la sagesse, qui est la cinquième lettre, de voir, en fait, quelles sont les causes de la souffrance et les causes du bonheur. Dans le sens où quand on fait l'expérience de soi à cet endroit, quand on fait l'expérience du type de désir qui nous viennent quand on est à cet endroit, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant et d'heureux. Et les désirs qui vont venir de ces espaces de nous-mêmes, et qui existent aussi dans le quotidien, ils nous viennent, ces désirs, ces aspirations profondes. Ces désirs qui viennent sont des désirs qui ne vont pas créer de souffrance à l'extérieur. Donc on va connaître et faire l'expérience, oui, on va connaître et faire l'expérience de ces désirs qui ne créent pas de souffrance. Et on va quitter, pour un temps, c'est tout ce qui nous concerne. Ça vient de l'anglais, ça, tout ce qui nous omnubile peut-être et qui crée de la souffrance pour nous-mêmes et pour autrui, y compris l'écologie, la justice sociale. Là, on va être un autre endroit de nous-mêmes. Un de mes enseignants s'appelle Dan Brown, mais pas l'écrivain, un enseignant en tradition Mahamudra. Il disait toujours, alors c'est pas du tout poétique, mais il disait toujours: quelle est votre plateforme d'opération? Où est-ce que vous êtes en ce moment-là? Dans quel endroit de notre identité on est? Parce qu'en fait, on va et on vient dans ces identités. Là, je le dis comme s'il y en avait deux, mais en fait, c'est pas on-off, c'est pas un l'autre, c'est toute une gradation. Et même, elles se mélangent parfois très mal. Parfois, les deux sont là en même temps. Et puis, sans vouloir amener de la confusion, tout ça, c'est le monde relatif de nous-mêmes. Après, il y a l'ultime. Je le dis parce que je sais que je le disais dans le premier discours. Tout ceci est un discours relatif. Après, cet aspect ultime de nous-mêmes, tout ça n'existe pas. Laissez bien ça de côté si ça vous rend confus. C'est parce que j'essaye toujours de donner. C'est comme si j'essayais de décrire une peinture, un immense tableau. Et parfois, je suis en train de tellement d'écrire là que j'ai envie de le mettre en lien avec ça quand même. Je crois que le temps passe très vite, en fait. Et donc, je vais m'arrêter là pour cette partie du discours. Laissez peut-être un peu sur votre faim avec toute cette envie d'explorer comment on donne plus de poids à nos aspirations profondes. Et donc, j'y viendrai cet après-midi. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.